Je passe maintenant donc à la présentation du conférencier de ce soir. Il s'agit de Régis Ferrière, qui est né en 1968. Il est mathématicien et biologiste, agrégé de mathématiques, docteur en sciences avec une thèse d'écologie. Il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et professeur à l'université d'Arizona. À partir de 1994, il participe avec Carl Sigmund et Hans Metz à la fondation du groupe de recherche Adaptive Dynamics Network à l'Institut international d'analyse appliquée des systèmes en Autriche. À partir de 1996, il est responsable scientifique de l'action mathématiques et biologie lancée par le CNRS visant à définir les axes prioritaires d'une stratégie de recherche à l'interface mathématiques-biologie. En 1997, il est maître de conférence au département de biologie de l'École normale supérieure. En 2000, il crée l'équipe d'éco-évolution mathématique au sein du laboratoire d'écologie de l'École normale supérieure. Et depuis 2002, il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et professeur à l'université d'Arizona. Comme vous allez le voir, Régis Ferrière est spécialiste de modélisation mathématique de l'évolution adaptative des systèmes vivants. Il utilise donc les mathématiques pour l'étude des processus de complexification et de diversification du vivant. Ce sont des voies de recherche mathématiques, mais qui sont associées au développement d'un programme expérimental recréant en laboratoire les conditions d'une évolution adaptative chez de petits invertébrés. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques techniques et co-éditeur de l'ouvrage Evolutionary Conservation Biology, publié par Cambridge University Press. Donc je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes, comme d'habitude, et puis je reviendrai ici pendant la série des questions qui suivent les interventions. Je vous remercie, bonsoir.
Je tiens à remercier avant toute chose l'équipe de l'Université de Tous les Savoirs pour m'accueillir ce soir et à vous tous pour venir être venu assister à cette leçon sur les mathématiques en évolution. Alors, lorsque on associe mathématiques et biologie, on se trouve généralement confronté à une sorte de paradoxe qui tient au fait que la biologie étudie des choses, des phénomènes extrêmement complexes. Les mathématiques recherchent la simplicité, la pureté de l'architecture, d'un édifice intellectuel. Et donc, lorsqu'on essaye d'associer les deux, mathématiques et biologie, en général, on se heurte. En tout cas, je me heurte lorsque je parle de ce que je fais en dehors de ma sphère de travail quotidienne. On se heurte généralement à des remarques du genre absurde. Le vivant ne se met pas en équation et les mathématiques n'ont pas grand-chose à faire en biologie. Alors, il est assez facile de répondre à ce genre de commentaires en disant que c'est précisément parce que la biologie étudie des phénomènes complexes que les mathématiques y sont indispensables et y deviennent incontournables lorsque on considère le développement actuel de la biologie. Alors, pourquoi des mathématiques incontournables en biologie ? Eh bien, d'abord parce que la biologie en vient maintenant, la biologie est par essence une science descriptive, mais elle en vient maintenant à gérer des masses d'informations absolument considérables qui échappent évidemment à l'appréhension du papier et du crayon, à l'intuition directe que l'on peut avoir lorsqu'on essaye d'interpréter des données. Donc des outils empruntés aux sciences de l'information, à l'algorithmique, en informatique par exemple, sont devenus indispensables pour gérer les bases de données que génère l'étude de phénomènes biologiques. Une autre raison pour laquelle, qui tient à l'essence de l'objet biologique pour laquelle les mathématiques deviennent incontournables, c'est que les interactions entre les variables et entre les facteurs qu'on étudie en biologie sont généralement de nature non linéaire. Les effets ne sont pas proportionnels aux causes, ou en tout cas généralement. Et donc il est très difficile, par la simple puissance de l'intuition, de prédire l'issue d'un phénomène biologique soumis à l'interaction de variables multiples et de facteurs qui interagissent donc de manière non linéaire. Une autre raison pour laquelle les mathématiques deviennent incontournables dans une science dont l'objet même est complexe, Eh bien, c'est précisément de nous dire quoi étudier dans cette science, de définir un cadre à la pratique expérimentale et de nous aider à en définir les limites de l'objet même que l'on étudie. La pratique expérimentale en biologie est essentiellement réductionniste, donc on démontre des mécanismes et derrière un mécanisme, on découvre un autre mécanisme et l'on raffine ainsi l'exploration d'un objet biologique. Où s'arrêter ? Seule une théorie peut nous le dire. Une théorie qui nous définirait les limites de notre pratique a priori, mais qui nous permettrait aussi de reconstruire à partir de ce que l'on connaît le fonctionnement global d'un système. Autrement dit, on part d'un phénomène que l'on essaye d'expliquer, on commence à le décortiquer, on met en évidence des mécanismes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Lorsqu'on est arrivé à une description qui nous paraît à peu près satisfaisante, eh bien, est-ce qu'en recollant les morceaux, on obtient bien le phénomène que l'on s'est proposé d'étudier ? On ne dispose pas des moyens d'ingénierie en biologie qui nous permettent de reconstruire les choses à partir de mécanismes élémentaires jusqu'à reproduire le phénomène dans son ensemble. Mais on dispose des mathématiques pour effectuer cette opération et donc, à l'aide de modèles, on peut entreprendre cette reconstruction a posteriori, bottom-up, diraient les Anglais, à partir du microscopique, de l'élémentaire, jusqu'au phénomène global, jusqu'à la description macroscopique qui nous a servi de point de départ. J'aimerais récupérer mon écran. Voilà. Donc, le besoin des mathématiques vient avant toute chose d'un besoin de guider la pratique expérimentale, de donner un sens à des bases de données gigantesques, d'intégrer les données empiriques qui ne sont toujours qu'un échantillonnage très partiel de la complexité du vivant. Mais au fait, complexe, pourquoi ? C'est la question que je voudrais aborder ce soir, qui est complémentaire des remarques que je viens de formuler. Après tout, pourquoi le vivant est-il complexe ? En a-t-il toujours été ainsi ? Pourquoi l'histoire du vivant, pourquoi l'évolution a-t-elle produit des objets d'études biologiques, des objets vivants, qui aujourd'hui nous apparaissent comme complexes ? Vous voyez que je déplace la question depuis travailler sur la complexité vers travailler à la complexité, c'est-à-dire que l'objet que je propose, l'objet d'étude ou le domaine d'application des mathématiques que j'envisage maintenant n'est plus celui d'un outil de travail pour aborder l'étude d'un objet complexe, mais ce que je vous propose, c'est de considérer les mathématiques comme un moyen d'explorer la question de savoir pourquoi l'objet qui nous intéresse en biologie est complexe. Donc il s'agit de faire des mathématiques pour expliquer l'origine de cette complexité et pour élucider les étapes de son histoire, les étapes d'une évolution de la complexité. Alors cette évolution, on peut la décrire globalement par une augmentation de la complexité, des premières molécules autoréplicantes aux organismes unicellulaires, et je vous ai représenté ici le plus vieux fossile connu d'un organisme microbien âgé de 3,5 milliards d'années, donc qui est apparu 400 millions d'années après l'origine chimique de la vie. Donc de ces premières molécules autoréplicantes, sans doute des ancêtres de nos ARN, nos unicellulaires, jusqu'aux multicellulaires et jusqu'à l'homme finalement, peut-on parler d'un progrès dans l'histoire du vivant ? Est-ce que cet accroissement de la complexité qui semble bien apparent dans cette énumération, est-ce qu'on peut lui donner même le sens d'un progrès dans l'histoire de la vie ? C'est donc à une exploration aux frontières des mathématiques et de la biologie que nous nous trouvons conviés ce soir. Et pour amorcer cette exploration, eh bien, je voudrais repartir de quelques faits biologiques et en particulier d'une question élémentaire, la première qu'on peut se poser lorsqu'on a affaire à décrire un objet physique ou biologique, quelle mesure pour la complexité ? Cette question de la mesure de la complexité a été abordée depuis longtemps et par des méthodes très variées et Au cours des 10 dernières années, on est arrivé, grâce au progrès de la génomique et de la biologie cellulaire, à quelques notions synthétiques que je rappellerai ici. On peut caractériser la complexité d'un organisme vivant d'abord par la taille de son génome. Alors on s'aperçoit que c'est une mesure de la complexité qui marche bien pour des organismes très anciens que j'ai énumérés ici, des procaryotes, aux protistes, à des métazoaires, invertébrés et poissons. Alors vous avez ici une échelle qui figure l'apparition, les dates d'apparition en quelque sorte de ces différentes catégories d'organismes, prokaryotes, protistes, métazoaires, invertébrés, poissons, et nous verrons ensuite reptiles, mammifères, dont les primates et l'homme. Et ici, grossièrement représenté, la taille du génome qui correspond à ces différents, qui donne une idée de l'ordre de grandeur du génome dans ces différentes catégories d'organismes. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette taille du génome augmente à peu près régulièrement, avec le temps, si vous voulez, chez les organismes les plus primitifs, dirons-nous, puis se stabilise aux environs de 10 puissance 9 paires de bases. Une autre mesure de complexité que l'on peut proposer, c'est le nombre de types cellulaires qui caractérisent des organismes multicellulaires. Alors une telle mesure, évidemment, sera fixée à 1 chez les organismes unicellulaires. Et là encore, on assiste à une certaine date dans l'histoire du vivant, à une augmentation de ce nombre de types cellulaires, une augmentation régulière jusqu'à, à nouveau, comme dans le cas du génome, une stabilisation de cette mesure. Enfin, on peut proposer comme mesure de complexité la masse relative du cerveau chez les organismes les plus avancés dans l'histoire de la vie. Et là encore, on s'aperçoit qu'il y a une bonne corrélation entre cette masse relative du cerveau et le temps, l'âge des organismes, de l'apparition des organismes considérés. Mais ce qui est remarquable lorsque l'on essaye de définir ces mesures de complexité et lorsqu'on les applique à toutes les catégories d'organismes vivants, c'est de constater qu'elles fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'elles elles nous satisfont dans la mesure où elles se corrèlent positivement, comme on l'attend avec le temps, mais pour des plages temporelles seulement. Et finalement, c'est par palier que cette complexité semble augmenter. Et à chaque palier, eh bien, il faut changer de mesure pour décrire la dynamique que l'on peut intuitivement concevoir, celle d'un accroissement de la complexité en fonction du temps. Alors ces observations élémentaires, ces mesures fondamentales ont conduit un de nos évolutionnistes les plus célèbres, un jeune homme de plus de 80 ans maintenant, John Maynard Smith, anglais de l'University of Sussex, à formuler une théorie donc qui se base sur l'observation qu'il n'existe pas de mesure complète de la complexité, c'est-à-dire d'une mesure universelle qui nous permettrait de classifier l'intégralité des organismes vivants, qu'on observe en fait une évolution que les mathématiciens qualifieraient de monotone par morceau de la complexité, c'est-à-dire que cette évolution est monotone, se caractérise généralement par un accroissement, mais cet accroissement est partiel, il ne s'applique qu'à des tranches de l'histoire de la vie. Et finalement, John Maynard Smith a baptisé chaque saut, chaque transition dans l'histoire du vivant qui nous impose un changement de mesure de complexité, une transition majeure. Donc, John Maynard Smith est à l'origine de cette théorie des transitions majeures de l'histoire de la vie qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage en 1995 avec son collègue Urs Zatmári de l'Université de Budapest, d'un ouvrage très important pour nous évolutionnistes dans lequel il développe les bases de sa théorie. Alors ces bases, en fait, elles consistent à décrire ces transitions majeures et j'en ai énuméré quelques-unes ici. C'est la transition, par exemple, de l'ARN à l'ADN, la transition de molécules libres, les molécules ancestrales de la vie qui avaient ses premières propriétés d'autoréplication à des cellules. C'est la transition des organismes unicellulaires à des organismes pluricellulaires. C'est la transition de la reproduction clonale à la reproduction sexuée. C'est la transition de la vie solitaire à la vie sociale. Cette liste est incomplète, mais elle vous donne une idée des principales transitions majeures décrites par Maynard Smith. Et l'idée fondamentale et l'originalité importante de son travail, c'est que ces transitions peuvent être, au plan théorique, décrites par un principe unique. Et c'est ce principe que je vais vous décrire maintenant, à propos duquel je vais vous montrer comment les mathématiques interviennent pour nous aider à mieux le comprendre et pour nous aider à en évaluer la robustesse. Alors, quel est ce principe ? Pour paraphraser Maynard Smith, ce principe peut s'énoncer de la manière suivante. C'est l'idée que des entités, donc des molécules, des cellules, des organismes au sein de populations, des entités capables de réplication indépendante avant la transition, ne peuvent plus se reproduire qu'en contribuant au fonctionnement d'un système intégré après la transition. De manière peut-être un peu plus claire, on imagine donc par cette formulation qu'avant une transition majeure, une population est constituée d'entités égoïstes qui sont en concurrence pour les ressources du milieu. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici par ces cercles. Ces cercles qui décrivent donc la capacité à l'auto-réplication des organismes que l'on considère. Et ces organismes se répliquent de manière égoïste en interagissant avec leurs voisins qu'au travers de relations de concurrence pour l'accès aux ressources du milieu. Après la transition, au contraire, les entités coopèrent au sein d'une unité intégrée qui leur permet d'exploiter de manière plus efficace les ressources du milieu. Alors, cette coopération, on peut l'illustrer de la manière suivante. Chaque type d'organisme a donc cette capacité à s'autorépliquer. Mais l'autoréplication ici ne s'effectue plus de manière égoïste, dans la mesure où un type d'organisme sacrifie une part de son budget énergétique destiné à sa réplication, de manière à aider à la réplication d'un autre type d'organismes présents dans le système. Et vous voyez qu'avec cette représentation très caricaturale, eh bien on aboutit à une chaîne d'influence coopérative. Chaque espèce reçoit de l'aide, en l'occurrence d'une espèce voisine dans cette chaîne, dispense de l'aide à une espèce voisine, et au total, eh bien la capacité reproductive de l'ensemble se trouve améliorée. Alors, c'est une représentation ici en chaîne donc fermée, donc de type cyclique, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard pour vous parler d'un modèle mathématique extrêmement simple qui a été développé à propos de cette métaphore. Un modèle un petit peu plus détaillé, peut-être plus réaliste, de système intégré coopératif serait celui-ci où chaque espèce présente, chaque espèce moléculaire ou chaque espèce cellulaire au sein d'un organisme, par exemple, contribuerait à un pool de ressources métaboliques et en retour puiserait dans ce pool les ressources nécessaires à l'amélioration de sa reproduction. Donc c'est la mise en commun de toutes les espèces métaboliques, en fait, qui, dans ce cas-là, contribue de manière plus efficace à la reproduction de chaque espèce dans le système, plus efficace que ne le ferait chaque espèce si elle se reproduisait de manière indépendante et, entre guillemets, égoïste. Alors, voilà donc en quelques mots résumé l'idée de Maynard Smith et de son collègue Szatmári. C'est une vision, en fait, de la coopération dans les systèmes biologiques qui est plus ancienne que leur travail, mais ils ont été les premiers à appliquer considérer ce principe, l'idée de cette transition très simple, donc à l'appliquer à l'ensemble des sauts de complexité qui semblent décrire de manière complète l'histoire du vivant. Alors, cette description est satisfaisante a priori, mais elle se heurte à un problème essentiel que Maynard Smith a baptisé le paradoxe des parasites. Alors, c'est un paradoxe qu'il avait soulevé à l'encontre des phases les plus originelles de la conception de cette théorie. Donc, dès 1980, il envisageait le cas d'un système coopératif qui serait confronté à l'apparition de parasites, donc des organismes qui tirent profit de la coopération sans fournir de contrepartie. Donc voilà un parasite ici en rouge figuré par rapport à cette chaîne coopérative cyclique. Vous voyez qu'ici, le parasite détourne une certaine quantité d'énergie qui serait normalement allouée par cette espèce ici à la reproduction de l'espèce qui lui est voisine. Donc le parasite exploite la chaîne coopérative sans rien contribuer en retour. Alors le problème de d'un tel parasitisme, c'est qu'il met en péril l'intégrité de tout l'assemblage coopératif. En effet, un tel parasite, lorsqu'on projette la dynamique de sa population dans le système que l'on considère, eh bien, va certainement augmenter en fréquence, puiser les ressources qui lui sont offertes par les espèces coopératives sans rien contribuer en retour, donc sans rien sacrifier de sa capacité propre à se reproduire. Donc c'est tout bénéfice pour un tel parasite. Il bénéficie de la coopération, des échanges coopératifs du reste du système sans que cela ne lui coûte rien, sans rien sacrifier de son potentiel reproducteur propre. Alors, si l'on projette donc au cours du temps les dynamiques des populations de ces différents organismes, les organismes coopératifs et un tel parasite, eh bien la sélection naturelle joue son rôle et finalement le parasite envahit le système ou bien le système tout entier disparaît si le parasite n'est pas capable de vivre seul, c'est-à-dire sans l'aide des espèces coopératives. Donc vous voyez qu'un système coopératif de ce genre-là est vulnérable au parasitisme. Ce qui pose le problème, un double problème en fait, tout à fait fondamental, le problème du maintien de systèmes coopératifs dans le monde vivant face au risque du parasitisme et le problème de l'origine de ces systèmes coopératifs à partir de populations composées uniquement d'individus parasites qui étaient, je vous le rappelle, l'état initial, l'état ancestral qui précède une transition majeure. Donc, comment expliquer le maintien des systèmes coopératifs? Comment expliquer l'origine des systèmes coopératifs à partir d'espèces égoïstes en interaction essentiellement concurrentielle? Alors c'est là que les mathématiques entrent en jeu. Et historiquement, les premiers modèles mathématiques qui ont été développés autour de la question du maintien et la question plus difficile en fait, de l'origine des systèmes coopératifs a été basée sur des modèles empruntés à la théorie des jeux, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une théorie très générale qui a été développée dans le domaine de l'économie et qui fournit en fait, des modèles très simples d'interaction entre organismes au sein de populations. Alors l'idée ici, c'est d'arriver à modéliser donc, le fait que des interactions entre organismes se caractérisent par des échanges, lorsqu'il y a coopération, par un coût pour un individu à coopérer et éventuellement un bénéfice à recevoir quelque chose. Donc les modèles les plus simples d'interaction dans le cadre de la théorie des jeux qu'on peut envisager sont des modèles dans lesquels les individus se rencontrent les uns avec les autres au hasard. Le gain qu'un individu reçoit dépend de sa propre stratégie, de son propre comportement, alors pour faire simple, coopératif ou non, et il dépend du comportement de son partenaire, de l'individu rencontré. Et pour replacer ces idées de base d'un modèle de théorie des jeux dans le contexte de l'évolution biologique, eh bien on dira que le succès reproducteur d'un certain type de joueur, d'un certain type d'individu, dépend de son propre gain comparé au gain moyen qui est remporté par l'ensemble des individus dans la population à l'issue d'un ensemble d'interactions. Alors, le modèle le plus simple qui a été développé selon ces grandes lignes est sans doute un modèle connu sous le nom de dilemme des prisonniers qui a été appliqué par Travers en 71 pour la première fois au problème de l'évolution de la coopération. Et ce modèle donc, oppose deux catégories de joueurs, les coopératifs et les parasites. Et il attribue très simplement un bénéfice au fait de recevoir le fruit d'une interaction coopérative et un coût au fait d'émettre une commodité de nature coopérative. Alors, les gains remportés par deux individus en interaction, selon les termes de ce jeu, se résument par un tableau très simple. Vous avez ici, donc, dans cette matrice, les gains remportés par un agent qui aurait deux comportements possibles, coopératif ou parasite. Alors, les Anglais qualifient ce comportement de « defection » et utilisent la lettre « D » pour le représenter. Donc, vous avez un comportement coopératif opposé à un comportement égoïste. Et donc, les gains pour cet individu, selon son comportement, sont déterminés également par le comportement de son partenaire, qui lui aussi dispose, a priori, de deux comportements possibles, coopératif ou égoïste. Alors, vous voyez qu'un agent qui pratique un comportement coopératif et qui rencontre un comportement qui rencontre un individu qui lui aussi coopère, eh bien, remporte le bénéfice que lui alloue son partenaire, mais paye le coût d'être lui-même, de pratiquer lui-même un comportement de coopération. En revanche, un individu égoïste qui rencontre un individu coopératif remporte le bénéfice de la coopération de son partenaire sans payer le coût lui-même de la coopération. Un agent coopératif qui rencontre un individu égoïste paye le coût de la coopération et ne gagne rien en retour. C'est le coût du parasite que je vous ai présenté précédemment. Et pour standardiser les choses, eh bien, on peut dire que deux individus égoïstes qui se rencontrent, leur interaction se traduit par un gain nul pour l'agent que l'on considère. Alors, vous voyez tout de suite qu'un tel jeu se traduit par un gain pour un individu égoïste toujours supérieur à ce qu'un individu coopératif remporterait, quel que soit le comportement du partenaire. Vous voyez qu'ici, ce B est nécessairement plus grand que ce B moins C, et ce 0 est nécessairement plus grand que cette quantité négative moins C. Donc la conclusion de ce jeu est très simple, et il n'est pas nécessaire de développer des mathématiques très compliquées pour s'en convaincre, quel que soit le comportement du partenaire, la stratégie égoïste gagne toujours. Donc c'est le problème essentiel formulé par Maynard Smith de manière verbale qui apparaît ici d'une manière un petit peu plus conceptualisée, qui est que une stratégie parasite doit résister à l'invasion, à l'émergence d'un comportement altruiste, et d'autre part, une population dans laquelle un comportement coopératif serait de règle, eh bien, est visiblement vulnérable à l'invasion par des organismes parasites. Donc le problème, maintenant mis en équation, en quelque sorte, à travers ce jeu très simple, se trouve reposé comment initier et comment maintenir la coopération dans un système biologique. Eh bien, le dilemme du prisonnier permet déjà d'apporter une réponse à cette question. Et cette réponse, elle a été découverte par Martin Novak et Robert May et publiée dans un article tout à fait remarquable paru en 1992 dans la revue Nature, où leur étude a porté sur un dilemme du prisonnier mis en scène dans un contexte spatial. Cela veut dire que ils ont considéré une population de joueurs en interaction les uns avec les autres, mais avec leurs voisins seulement. Je vous ai présenté le dilemme du prisonnier, ou des jeux très simples, sur la diapositive précédente, en vous disant que les rencontres se faisaient au hasard. Novak et May ont considéré un cadre dans lequel les individus sont disposés sur une grille. Donc c'est encore une modélisation extrêmement simpliste qu'ils nous proposent, mais qui a le mérite d'ajouter un ingrédient essentiel qui est l'espace. Les individus sont disposés sur une grille et ils n'interagissent qu'avec leurs plus proches voisins. Donc cette grille permet au jeu de se développer dans un espace en deux dimensions. Et voilà ce que l'on observe dans une simulation numérique. Donc imaginez une grille, toutes les cases sont occupées par des joueurs. Ces joueurs peuvent être des parasites ou des altruistes, des individus coopératifs. Ils interagissent avec leurs voisins immédiats. Ils jouent chaque joueur joue le dilemme du prisonnier avec ses voisins. Et on décide du changement d'état d'une case dans cette grille en fonction des résultats remportés par le joueur qui occupe cette grille. Donc cette grille va être mise à jour, pas à pas, en fonction du gain remporté par chacun des individus qui occupent chacune des cases de la grille, chacun de ces individus jouant le dilemme du prisonnier contre ses voisins. Alors, je vous ai rapporté ici les résultats d'une des simulations présentées par Novak et May. Donc, on démarre la simulation avec une grille dans laquelle toutes les cases sont bleues, c'est-à-dire que toutes les cases sont occupées par des parasites. On introduit au centre de cette grille un individu coopératif et on suit l'évolution de la population de cet individu coopératif au sein de la population initialement composée seulement d'individus parasites. Et voilà ce que l'on observe. Vous voyez que les individus coopératifs placés au centre de la grille forment une sorte de masse, d'agrégat, qui augmente en taille petit à petit. Donc chaque itération, chaque représentation, chaque carré ici représente l'état de la population après un certain nombre de pas de temps. Et à mesure que le temps passe, eh bien, cette population, cet agrégat s'étend, se propage. Et petit à petit, les individus coopératifs envahissent l'espace et s'imposent dans la population des tricheurs. Alors, vous voyez apparaître des motifs géométriques tout à fait réguliers dans cette population, et ces motifs deviennent de plus en plus distincts et remarquables à mesure que l'on itère plus avant le processus, pour aboutir finalement, après un temps assez long, à une composition de la population où se trouvent mélangés les individus parasites et les individus coopératifs, avec une distribution, une disposition des individus dans l'espace qui forme un superbe motif que les auteurs de l'article dans Nature n'hésitaient pas à qualifier de tapis persan. Je crois que c'est la première fois qu'une telle expression apparaissait dans un article de biologie dans Nature. Mais en effet, le motif est tout à fait remarquable et possède une valeur esthétique certaine. Et en tout cas, le mérite biologique de cette simulation, c'est qu'il nous montre que des individus coopératifs, mis en situation d'interagir seulement avec leurs voisins, eh bien, peuvent initier la coopération dans une population de parasites et l'installer durablement. Alors, ces motifs géométriques si remarquables, l'astuce pour les obtenir consiste à partir avec une répartition de quelques individus altruistes, au départ coopératifs, qui obéit à des principes de symétrie. Donc, partez avec un carré, par exemple, rempli d'individus, de quatre individus altruistes, et vous obtiendrez une jolie figure de ce genre-là. Si vous initiez la simulation avec un groupe d'altruistes à la configuration spatiale plus compliquée, eh bien l'état final de la population ne se stabilisera pas à un motif géométrique régulier, mais fluctuera au cours du temps de manière apparemment aléatoire pour former, par exemple, ce genre de motif, donc sans régularité apparente. Vous avez ici un instantané d'une figure qui fluctue de pas à pas. Mais ce qui est remarquable, que ce soit dans les simulations qui produisent des motifs réguliers, qui eux aussi fluctuent au cours du temps, mais en obéissant toujours à des règles géométriques strictes, aussi bien que pour ce genre de dynamique où les motifs paraissent aléatoires, eh bien, ce qui est remarquable, c'est que dans tous les cas, la proportion d'individus coopératifs dans la population se stabilise à hauteur d'une constante qui apparaît dans ces simulations totalement indépendante des paramètres que l'on choisit pour itérer ce dilemme du prisonnier et qui ne dépend en fait même pas du jeu que l'on choisit. Le dilemme du prisonnier n'est pas le seul jeu que l'on puisse concevoir pour mettre en scène des individus coopératifs et égoïstes. Et dans tous les cas, Novak et May ont observé que la proportion d'individus coopératifs se stabilisait aux alentours d'une constante qu'ils ont pu approcher par un raisonnement géométrique très simple, une constante apparemment universelle. Donc ce jeu extrêmement simple qui s'apparente au jeu de la vie que vous connaissez peut-être, qui repose sur un algorithme que l'on peut programmer très facilement sur un ordinateur personnel, eh bien, ce jeu obéit à des règles, enfin le comportement macroscopique et asymptotique de ce jeu obéit à des règles apparemment universelles pour lesquelles nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'explication mathématique complète. Alors, le jeu que je viens de vous présenter est extrêmement simple et caricatural. On peut essayer de concevoir des modèles plus complexes, mettant par exemple en scène plusieurs espèces en interaction mutualiste. Donc, on envisage maintenant le cas d'un réseau d'interaction qui s'apparente à, au schéma que je vous avais présenté initialement pour introduire cette notion de coopération. À l'origine, le modèle mathématique qui a été présenté pour décrire une telle chaîne d'interaction coopérative a été baptisé du nom de modèle de l'hypercycle, et il a été proposé par Eigen et Schuster à la fin des années 70 pour décrire des réactions biochimiques. Donc, dans le contexte de leurs études, ils ont considéré des espèces moléculaires en interaction avec en fait, production d'enzymes qui catalysent la prolifération des espèces voisines. Donc, un tel modèle se caractérise par un nombre d'espèces fixé, mais a priori arbitraire. Et les propriétés mathématiques de des modèles d'équations différentielles qui décrivent ce genre d'interaction sont assez simples et se caractérisent en particulier par le fait que les effectifs des espèces moléculaires qui interagissent se stabilisent en un équilibre globalement stable lorsque le nombre d'espèces en interaction est faible, lorsqu'il est plus petit que 4, et lorsque ce nombre d'espèces est supérieur à 5, eh bien les concentrations des espèces moléculaires ou les densités des organismes en présence fluctuent, oscillent de manière stationnaire, permanente. Ces oscillations sont périodiques. Alors, que peut-on dire du maintien d'un tel réseau d'interaction mutualiste face aux parasites? Et bien là encore, le problème a été résolu par deux chercheurs néerlandais au début des années 90 par le même procédé que Novak et May. Donc ils ont considéré le cas où un réseau d'interaction mutualiste était confronté à donc une espèce parasite qui exploite la production d'enzymes sans rien contribuer en retour. Et ils ont inséré ce réseau d'interaction sur un réseau spatial, comme dans le cas du dilemme du prisonnier, en établissant donc des règles de mort d'individus dans une case de leur population. Il y a un certain taux de disparition des individus, un certain taux de réplication qui se traduit par la colonisation d'une case voisine, et puis un certain taux de catalyse de la réplication d'une molécule X en présence des espèces appropriées qui sont déterminées par le réseau cyclique tel qu'il est décrit a priori. Donc lorsque l'on simule ce genre de réseau d'interaction mutualiste avec un nombre d'espèces au moins égal à 5, eh bien, ce que l'on observe, c'est la chose suivante. Répartissez de manière aléatoire les espèces sur une grille qui est donc soumise à ces règles d'évolution temporelle, et au bout d'un certain temps, vous verrez apparaître, donc lorsque le nombre d'espèces est supérieur à 5, c'est-à-dire lorsque le modèle non spatialisé produit des oscillations périodiques des concentrations des différentes espèces, eh bien vous verrez apparaître des spirales, de magnifiques spirales, qui forment des motifs stationnaires dans cette population, donc qui bougent, mais qui conservent en permanence la même structure. Et il se trouve, la découverte de Berlicht et Högweg a été de montrer que ces spirales sont en fait capables de résister, confèrent une résistance du système dans son ensemble à l'invasion par des parasites. Donc, soumettez maintenant ce réseau à un parasite représenté en noir. Et voilà ce que vous observerez. Ici, le parasite a été introduit dans la population. Donc, les différentes couleurs correspondent aux différentes concentrations des espèces en présence. La couleur noire est utilisée pour représenter la répartition du parasite dans le système. Et vous voyez dans ces simulations que le parasite, après une phase de croissance, eh bien, a tendance à être éliminé du système et finalement disparaît. Dans certaines simulations, selon le lieu précis d'introduction du parasite, celui-ci peut former des sortes de kystes qui perdurent dans la population, mais sans jamais envahir ni déstabiliser le système. Donc la conclusion de ce travail a été de montrer que l'autostructuration de ces populations d'espèces en interaction mutualiste confère une résistance à l'hypercycle. Et en fait, le mécanisme sous-jacent, c'est que cette autostructuration en spirale facilite l'accès d'une espèce à ses partenaires, à ses bons partenaires, c'est-à-dire à ceux à celui en particulier qui produira l'enzyme qui accélérera sa propre réplication. Donc c'est cet accès privilégié au partenaire dont ne bénéficie pas le parasite qui finalement permet au réseau hypercyclique de résister à l'invasion par des parasites. Alors, on peut se poser la question, on peut pousser plus loin le challenge à la modélisation et essayer de maintenant, après avoir exploré le problème du maintien d'interactions coopératives face aux parasites, on peut se poser la question de l'origine de réseaux coopératifs et la question aussi de savoir si les parasites sont toujours contre-sélectionnés dans les systèmes d'interaction coopératives. Alors, un petit retour par les données réelles nous montre en effet dans différents exemples d'interactions biologiques, par exemple des interactions de type plante-pollinisateur, j'ai représenté ici une plante à fleurs, le troll, en interaction avec une mouche, la mouche castoquette, qui en est le pollinisateur. Dans certaines espèces de fourmis, chez lesquelles des soldats font preuve d'une coopération extrême, puisqu'ils sacrifient leur activité reproductrice pour défendre l'activité de la colonie tout entière, ou encore à un niveau plus élémentaire chez des amibes sociales qui s'agrègent et se différencient en cellules reproductrices et cellules non reproductrices, ces dernières faisant preuve d'un acte coopératif extrême, là encore, pour assurer la reproduction des cellules qui en sont capables. Eh bien, dans tous ces exemples, on dispose maintenant d'une évidence empirique qui nous montre que des parasites existent et des parasites persistent, des morphes parasites persistent en présence des espèces coopératives nominales. C'est le cas chez les fourmis, par exemple, chez certaines espèces desquelles des soldats sont eux-mêmes capables de reproduction. Chez les amibes sociales, là encore, on connaît des morphes tricheurs, des morphes parasites qui exploitent cette coopération entre cellules reproductrices et cellules non reproductrices, sans pour autant déstabiliser l'interaction coopérative dans ce système. Alors, pour aborder ce problème d'origine de la coopération et d'apparition de parasites et de persistance des espèces coopératives et parasites, eh bien, il est nécessaire de développer des modèles mathématiques qui, au lieu d'opposer simplement deux types de stratégies, une stratégie coopérative donnée et une stratégie tricheuse donnée, nous permettraient de reconstruire toute l'histoire du système depuis l'état ancestral parasite jusqu'à l'état que l'on observe aujourd'hui dans le cas de ces différentes espèces où semble coexister une structure coopérative dominante et des parasites dont, dans certains cas, on sait dater la présence depuis fort longtemps. Alors, ces modèles mathématiques qui nous permettent de reconstruire une dynamique de l'évolution soumise à mutation, à variation et à sélection, on commence maintenant de savoir les développer. Ils font appel à des mathématiques complexes, en particulier à des outils très sophistiqués de la théorie des probabilités. Et on commence aussi de les appliquer au problème de l'évolution des réseaux coopératifs. Alors, je vous résumerai très brièvement le principe de cette modélisation. Prenons le cas très simple de deux espèces en interaction susceptibles de céder l'espèce verte, ici par exemple, investissant dans une fonction coopérative à hauteur d'une certaine quantité que j'ai noté U ici, et de même l'espèce bleue investissant dans une fonction mutualiste à hauteur d'un certain investissement qui la caractérise. Alors, ce que l'on va envisager dans un tel système, c'est que l'espèce verte est capable de produire un mutant, que j'ai représenté ici en vert pointillé, qui va investir dans la fonction mutualiste une quantité U' légèrement différente de la quantité U. C'est une petite mutation qui modifie légèrement le comportement des individus. Bon, là, j'ai représenté par une flèche plus épaisse le fait que la quantité U' était un peu plus grande que la quantité U. Donc, on a affaire ici à un mutant légèrement plus coopératif que le phénotype résident initialement présent dans le système. Alors, la question qui se pose au modélisateur est de prédire le résultat de cette interaction nouvelle. Il peut se passer essentiellement trois choses. Le mutant peut être éliminé du système, Donc le phénotype le moins coopératif dans ce cas-là va persister et la population mutante s'éteint. Et la porte est maintenant ouverte à l'apparition d'un nouveau mutant. La deuxième possibilité, c'est que le mutant envahisse le système, élimine le phénotype U et définisse le nouvel état de la population, un état légèrement plus mutualiste, légèrement plus coopératif, dans lequel, là encore, un nouveau mutant est susceptible d'apparaître. Et la troisième possibilité, c'est le statu quo, c'est la coexistence, finalement, de ces deux phénotypes, du phénotype mutant et du phénotype résident. Alors, c'est ce genre de dynamique de mutation et de sélection que la théorie des probabilités et la théorie des systèmes dynamiques permet de modéliser. Et dans le cas d'une interaction mutualiste entre deux espèces, je vous ai représenté ici un cas typique de comportement du système. Voici l'investissement mutualiste de l'espèce que nous suivons au cours du temps, le phénotype U. Voici le phénotype de son partenaire et voici le type de dynamique adaptative, de dynamique de l'évolution que l'on peut reconstituer dans cet espace, donc cet espace des phénotypes. Alors cette dynamique, elle se caractérise par quelques éléments essentiels. Tout d'abord, seuls les phénotypes U et V contenus dans cet ovale permettent la viabilité du système. Un système où une espèce ou l'autre ou les deux sont trop mutualistes ne peut pas persister. La simulation du système permet donc de reconstituer à partir d'un état ancestral la trajectoire évolutive que suivrait le système par mutation-sélection, donc se déplacer le long de cette trajectoire, par exemple, c'est pour la population voir des mutants apparaître, voir la sélection opérer, un nouvel état défini, un nouveau mutant apparaître, et ainsi de suite. Et vous voyez que dans tous les cas, eh bien, ce que l'on observe dans un tel système, c'est son suicide évolutif. C'est-à-dire que toutes les trajectoires évolutives convergent vers la limite de viabilité du système, limite à laquelle la population tout entière s'éteint. Donc vous voyez que reconstituer toute l'histoire, prédire, modéliser l'intégralité de l'histoire évolutive du système nous amène à conclure qu'un tel système à très long terme, sur l'échelle des temps évolutifs, un système mutualiste n'est pas viable et converge inexorablement vers l'extinction de la communauté tout entière. Alors nous avons cherché à intégrer les observations que je vous ai présentées précédemment, notamment celles de Berlicht et Hogweg, qui montrent qu'un système mutualiste peut résister aux parasites si, par exemple, les partenaires les plus mutualistes ont un accès privilégié aux ressources qu'ils sont susceptibles de mettre en commun. Alors, lorsqu'on incorpore cette hypothèse dans notre modèle, eh bien, cela revient à considérer que l'interaction entre l'espèce bleue et l'espèce plus mutualiste U' est privilégiée par rapport à l'interaction entre cette même espèce partenaire et l'espèce ancestrale de phénotype U. Et lorsqu'on étudie le comportement du modèle mathématique en incorporant cette hypothèse, eh bien, on s'aperçoit que selon la façon dont se comparent ces flèches, donc si vous voulez l'épaisseur relative de cette flèche par rapport à celle-ci, autrement dit le degré d'asymétrie dans l'accès aux partenaires d'une espèce mutualiste par rapport à l'autre, eh bien, on peut retrouver le comportement que je vous ai présenté précédemment. On peut retrouver un autre type de suicide évolutif qui se caractérise par une sorte d'emballement du système vers toujours plus de coopération jusqu'à ce que la coopération soit tellement coûteuse pour l'individu que le système tout entier n'est plus viable. Et puis, on retrouve le cas qui nous intéresse, évidemment, le cas où le système peut se stabiliser à un équilibre évolutif stable. À partir de cet état évolutif, on peut s'interroger sur la stabilité de cet état et tester cette stabilité par des simulations individuelles, donc en prenant en compte le devenir de chaque individu dans la population. Et je vous ai présenté ici sur l'une de ces dernières diapositives le résultat de ces simulations. Donc, laissons le système converger vers cet état évolutif attractif dans un premier temps et observons ce qui se passe ensuite. Eh bien, ce qui se passe ensuite, C'est sous certaines conditions de nature assez générale, à vrai dire. Ce que l'on observe, c'est la diversification de l'espèce U que l'on s'est proposé de suivre. Vous voyez ici qu'après avoir atteint l'état qui est représenté en fait par ce point rouge, eh bien, le phénotype U n'est plus unique dans la population. Vous voyez que deux branches apparaissent qui traduisent la coexistence de phénotypes légèrement plus coopératifs avec des phénotypes qui le sont moins, qui se comportent comme des tricheurs dans un tel système. Et cette diversification ne fait que s'amplifier jusqu'à ce que le système se stabilise dans un état diversifié où coexiste tout un ensemble de morphes, depuis des phénotypes extrêmement mutualistes et coopératifs jusqu'à des phénotypes que l'on qualifiera de francs tricheurs dans un tel système. Donc, d'un point de vue mathématique, la caractéristique tout à fait originale d'un tel système et propre à l'évolution biologique, c'est que la convergence du processus de mutation-sélection que l'on a observé ici n'implique pas la stabilité de cet équilibre que l'on avait mis en évidence. En fait, un tel point d'équilibre, un tel pseudo-équilibre peut attirer des trajectoires de l'évolution, mais fournir en quelque sorte un point de passage obligé pour l'évolution avant des phases de diversification comme celle que vous voyez se développer ici. Donc, en conclusion, pour récapituler les éléments essentiels de cet exposé, vous avez vu que la théorie des transitions majeures de l'évolution donne un rôle clé à l'évolution de la coopération dans le processus de complexification du vivant. Dans ce contexte, la modélisation montre que la compétition n'est en rien antinomique de la coopération, elle ne s'oppose pas à l'évolution de la coopération. La modélisation révèle que le parasitisme des systèmes hautement coopératifs est une nécessité de l'évolution. C'est ce que nous montre ce dernier exemple où le système se diversifie vers des morphes extrêmement coopératifs, mais au prix, en quelque sorte, de l'évolution de morphes tricheurs. Les modèles développés autour du thème de l'évolution de la coopération nous montrent que l'idée selon laquelle les systèmes vivants seraient optimisés par l'évolution est fausse en général. Et enfin, les exemples de modèles que je vous ai présentés requièrent des mathématiques originales dont l'originalité même tient aux caractéristiques essentielles du vivant, la variabilité intrinsèque des éléments mis en jeu. Tous les individus sont différents dans une population biologique et les pressions de sélection que génère le système lui-même par l'interaction de ces éléments. Alors, je terminerai en vous citant brièvement quelques références qui vous permettraient d'en savoir plus sur ce sujet. Des références bibliographiques aux travaux notamment de Karl Siegmund de l'Université de Vienne en Autriche, un ouvrage tout à fait remarquable sur les jeux appliqués à l'évolution et la dynamique des populations. Le site du réseau des dynamiques adaptatives à l'Institut d'analyse appliquée des systèmes qui vous présente une banque d'articles sur le sujet. Et je signalerai également une école d'hiver organisée chaque année à l'École normale supérieure. Vous pourrez en savoir plus en consultant le site de l'école où il est question de modélisation de processus évolutifs. Je vous remercie.
Je vais faire peut-être une extrapolation un peu hardie de ce que vous avez dit sur les systèmes coopératifs. En remplaçant le mot système coopératif par le mot démocratie et le système parasite par le terrorisme, est-ce qu'on pourrait en déduire que la coopération des démocraties survit nécessairement, quand on regarde l'évolution des modèles que vous avez fait tourner, au parasitage du terrorisme ? Est-ce que ce modèle peut s'appliquer à cette réflexion ?
Alors, plus généralement, ce genre de modèle, effectivement, peut s'appliquer à des questions de dynamique de systèmes sociaux, non seulement politiques, mais sociaux en général. Et je crois que le problème que vous abordez, donc si on essaye d'établir un parallèle aussi étroit que possible avec les considérations biologiques qui sont derrière ces modèles, en fait, les tricheurs, les égoïstes que vous envisagez en fait, sous l'intitulé terroriste s'apparenterait à des macro-mutations du système en place. Donc c'est une forme d'extrémisme que vous envisagez. Donc, de telles macro-mutations ne font pas partie des schémas que je vous ai proposés. L'évolution biologique, dans ces grandes lignes, est soumise à des petites variations. Je pense qu'on pourrait recadrer en fait, la question de l'évolution, au sens culturel, de terrorisme, derrière l'idée de dérive à partir d'un état coopératif. Alors, effectivement, les principes de théorie des jeux qui sont appliqués à la biologie l'ont été aux relations sociales. Et des expériences de psychologie expérimentale, par exemple, nous montrent que des règles très simples qui semblent sélectionnées par l'évolution eh bien, sont celles que l'on retrouve lorsqu'on soumet des sujets aux situations de jeu, telles que le dilemme du prisonnier. Alors, tout ça pour en arriver à l'idée que les modèles biologiques qui sont... approchés par ces outils de modélisation, n'intègrent pas une dimension essentielle qui caractérise l'objet social, c'est la dimension culturelle et c'est les modes de transmission qui sont propres à tout ce qui relève du culturel ou du politique ou du social. Donc vous avez des formes de transmission qui ne sont pas prises en compte dans ces modèles, qui s'appliquent à nos populations humaines, et des formes de répression ou des formes de contrôle du parasitisme qui ne sont pas apparentes dans ces modèles biologiques. Ce qui caractérise ces modèles biologiques, c'est que les mécanismes de régulation du parasitisme sont internes et ne sont pas décidés de manière culturelle. Donc je crois que l'extrapolation, justement, bon, on peut la faire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que des formes d'extrémisme, des formes de différenciation, de non-adhésion à l'esprit social d'une communauté existaient très certainement dans les populations humaines primitives, dans les premières phases de l'évolution de l'hominisation. Mais pour arriver à extrapoler ces modèles aux situations sociales et politiques qu'on aimerait décrire aujourd'hui, il serait nécessaire d'ajouter des couches de complexité que ces modèles-là n'incorporent pas.
Deux choses. Premièrement, est-ce que dans certains de vos systèmes que vous obtenez, il y a des systèmes critiques auto-organisés, oui ou non, ou que peut-on dire de ça ? Deuxième chose, il y a des tentatives de formalisation de l'évolution, enfin des arbres de l'évolution, par exemple Chaline et Nothal. Comment se situe-t-il par rapport à vos propres recherches ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce marginal ? Est-ce une avancée intéressante ? Ou est-ce que vous les préférez ignorer ce genre de... Parce que je sais très bien qu'entre les différentes écoles scientifiques, parfois on fait mine d'ignorer certaines recherches. Alors, j'aimerais savoir votre position, quelle qu'elle soit.
Merci. Oui, l'approche qui est développée ici est très différente de celle que des paléontologues que vous mentionnez peuvent suivre. En fait, ce qui nous intéresse, et ce qui m'intéresse moi en tant que mathématicien, c'est de partir de considérations qui s'appliquent au niveau des individus, à l'écologie d'un système, donc aux relations, aux interactions de tous les jours entre les individus d'une population, pour arriver à en reconstruire une dynamique sur une autre échelle de temps. Donc ce que l'on essaye d'incorporer dans nos modèles, c'est une description d'interactions et de caractéristiques microscopiques sur des échelles de temps très courtes pour en extrapoler un comportement macroscopique sur une échelle de temps très longue. Alors, les paléontologues et bon, toute une école d'études de la diversification des processus évolutifs ignorent l'écologie simplement parce qu'elle n'y a pas accès, autrement que par des hypothèses sur ce que pouvaient être les conditions qui prévalaient dans des écosystèmes dans des temps géologiques très, très reculés. Et donc, elle va s'intéresser elle va utiliser des outils de description qui sont différents
plutôt que d'essayer de relier des patterns macroscopiques à des données microscopiques, elle va essayer de caractériser des invariants de ces patterns macroscopiques et donc d'écrire, par exemple, des motifs de diversité en fonction du type d'organisme qu'elle considère, et d'essayer d'en trouver de trouver des lois qui présideraient à la diversification d'un système. Alors, le lien qui existe entre une approche comme celle que je vous ai présentée et l'approche de paléontologue qui va considérer le produit macroscopique d'une évolution pour essayer d'en retirer des lois, je crois, ces approches ne sont pas incompatibles, mais elles ne sont pas, je pense, à l'heure actuelle, en état de s'enrichir l'une l'autre. Les paléontologues ne peuvent rien nous dire sur les prédictions que nous faisons sur l'écologie d'un système pour observer un comportement évolutif à long terme. Et d'un autre côté, nous n'avons pas la prétention, à partir d'une phylogénie reconstituée comme le dernier graphique que je vous ai présenté, où vous voyez un arbre analogue à une phylogénie en train de se diversifier, nous n'avons pas la prétention de confronter l'état asymptotique du système, le nombre d'espèces en coexistence que l'on voit finalement produit par une telle simulation, avec des données réelles. Donc je pense que ça peut être un objectif à long terme de ce genre de recherche, mais il faut savoir que les données paléontologiques sont incomplètes et que le type de question qui est posé dans ce contexte est limité par l'incomplétude de ces données, mais aussi par le fait que les questions écologiques qui nous intéressent ne sont pas pertinentes simplement dans le domaine de la paléontologie. Quant à la question de l'organisation autocritique, bon, c'est un grand mot des physiciens. Vous avez vu que l'auto-organisation joue un rôle important dans ce genre de système. La formation des spirales, par exemple, dans l'hypercycle spatialisé de Berlicht et Hogweg, est un exemple d'auto-organisation d'un système. Alors, la convergence vers un état critique qui marquerait une transition abrupte vers un autre état, je crois que ce ne sont pas des phénomènes qu'on observe dans les modèles qui nous intéressent. Et je ne pense pas, je n'aurais pas d'a priori sur le type de phénomène biologique que je pourrais expliquer avec, si je voyais un tel phénomène apparaître dans mes simulations. Je pense que c'est un très joli concept de la physique théorique, mais dont je ne vois pas a priori la pertinence dans l'évolution telle qu'elle est. Telle qu'elle nous apparaît avec les modèles dont on dispose aujourd'hui. En revanche, la question de la transition de phase, par exemple, peut se reposer, qui est un classique de la physique et de la mécanique statistique, peut se reposer dans le contexte de ces simulations. On a affaire à des processus stochastiques qui peuvent présenter des comportements qualitatifs très différents et comprendre ce qui fait changer de comportement de manière abrupte un processus stochastique. C'est un problème mathématique très intéressant.
Dans quelle mesure ces modèles mathématiques ont-ils été validés par la réalité de la biologie ?
Là encore, c'est une question qui peut prolonger directement la précédente. Donc, je peux répondre de manière un peu égocentrique en parlant du programme expérimental que l'on commence à développer dans mon laboratoire à l'École normale, où on essaye justement de confronter à l'expérience des prédictions de dynamique adaptative, c'est-à-dire de séquences, de mutations, sélection. Alors on pose exactement la question que me posait monsieur précédemment, à savoir trouver les conditions rares sous lesquelles l'évolution optimiserait, c'est-à-dire ces conditions rares sous lesquelles une mesure absolue de fitness pourrait être définie, montrer que dans l'ensemble des conditions, ces conditions restrictives, selon les conditions que l'on choisit, on ne définit pas la même mesure de fitness absolue, et montrer d'autre part qu'en général, l'évolution n'optimise pas et favorise plutôt la coexistence de différents morphes. Alors ce genre de prédictions, on peut les tester avec des systèmes expérimentaux, des systèmes bactériens par exemple. Nous utilisons des tout petits invertébrés, des colamboles, pour lesquels on dispose d'un certain nombre de clones, avec lesquels on peut jouer en les considérant comme des mutants les uns des autres. Donc on peut reconstituer de cette manière-là des chaînes de mutation-sélection en introduisant un clone dans une population d'un clone donné. Donc l'introduction de ce clone correspond à une mutation artificielle, en quelque sorte, qui nous permet de suivre le devenir de ce clone, de ce mutant au sein d'une population résidente dans laquelle il apparaîtrait. Donc en jouant avec un ensemble de clones, on arrive à reproduire potentiellement les chaînes de mutations, sélections successives qui caractérisent, qui jalonnent l'évolution naturelle d'un système. Donc on peut y mettre des prédictions sur l'état final du système, la convergence par exemple vers un unique phénotype stable dans le système, ou au contraire la diversification et la coexistence de clones au sein d'un système. On peut émettre des prédictions sur les conditions écologiques qui détermineraient l'un ou l'autre comportement de la population et tester ces prédictions sur le système réel.
Vous avez donné quelques exemples connus de coopération, fourmis, etc. J'aurais aimé savoir si, dans les exemples que je vais vous donner, est-ce qu'ils confirment ou infirment les théories mathématiques dont vous avez parlé. La première, c'est finalement la durée de vie. Si on prend l'échelon, le niveau cellulaire, les microbes se multiplient très vite, mais la durée individuelle de chaque microbe est très courte. Si on prend comme réussite la durée de vie, il est certain que, par exemple, un globule rouge qui est dans un organisme supérieur, disons, dure 120 jours. Donc la durée de vie est considérablement augmentée. Est-ce qu'on peut dire que les cellules, justement en s'associant dans un organisme, ont des durées de vie nettement augmentées? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, dans le livre de Changeux, il parle de l'évolution de la densité des synapses au cours du développement du cortex. Or, quand on va du rat à l'homme en passant par le chat et le macaque, il y a une évolution de la densité des synapses au cours du développement du cortex. Est-ce que ces deux exemples confirment les théories mathématiques que vous avez avancées?
Oui, le premier en fait pose plus généralement le problème de l'évolution de la sénescence ou le problème de l'évolution de la mortalité des organismes par opposition à leur immortalité. Et bon, je pourrais répondre assez longuement à cette question qui est tout à fait d'actualité. Effectivement, on interprète aujourd'hui l'évolution de la sénescence, donc d'une durée de vie finie et d'une accélération de la mortalité avec l'âge, comme la déstabilisation d'un système coopératif par des parasites. En fait, l'idée essentielle, c'est qu'au cours du développement, les parasites sont initialement jugulés, mais l'énergie qui est investie dans cette régulation des parasites est finalement pompée par un système coopératif qui est de plus en plus efficace, mais au point où l'énergie qui permet de réguler le parasite n'est plus disponible pour assurer cette régulation. Donc c'est finalement l'augmentation de la performance d'un système au cours du développement qui régule les parasites qui apparaissent par disons, mutation, par variation de manière générale. C'est finalement cette augmentation de la performance qui en vient à contraindre le système à la déstabilisation, à la dérégulation des parasites et à sa perte, finalement. Donc, comprendre l'évolution de la mortalité, l'évolution de la sénescence et de manière plus précise, plus quantifiée, l'évolution de la durée de vie, c'est un problème que l'on sait maintenant replacer dans le cadre de l'évolution de la coopération, de l'évolution du parasitisme, et que l'on est en train, ce sont vraiment des problèmes de recherche tout à fait d'actualité, d'interpréter à la lumière de ces théories. Les différences de connexion, de nombre de connexions synaptiques tombent tout à fait sous le coup de l'idée d'une mesure de la complexité basée sur la ramification et la diversification des connexions neuronales, tout à fait.
J'avais vu un article d'un scientifique américain comme quoi il avait réussi à trouver une certaine périodicité dans les grandes étapes de l'évolution de la planète avec l'apparition des dinosaures, des mammifères, de l'homme, etc. Et je me demandais si ça avait un rapport avec certaines de vos recherches, s'il y avait une périodicité dans votre théorie, dans vos théories mathématiques liées à l'évolution.
Donc périodicité, vous voulez oui. Vraiment parler des durées qui séparent.
Il avait réussi à trouver une période théorique qui s'appliquait pratiquement à chaque date, grande date de l'évolution de la planète, de chaque espèce. Et j'aurais voulu savoir si une certaine périodicité pouvait s'appliquer aux théories que vous avez développées sur l'évolution.
Oui, les théories que je vous ai présentées, donc comme je le disais précédemment, n'ont pas à l'heure actuelle une grande valeur quantitative. Donc je ne me hasarderai pas à des généralisations ou à des grandes affirmations sur le rythme d'évolution que l'on pourrait inférer à partir de ces modèles. Je pense d'autre part que la question de l'apparition des groupes végétaux ou animaux, donc à l'échelle des temps géologiques, et la question de leur diversification, finalement, relève plus du problème de la spéciation que du problème de la complexification que j'ai abordé ce soir. Alors, la rythmicité de la spéciation, elle est très dépendante des conditions écologiques et d'événements environnementaux de grande ampleur. Donc, je suis un peu surpris qu'on puisse trouver une périodicité qui finalement domine des rythmes qui sont imposés par le hasard des grands changements globaux qu'a pu connaître notre planète au cours de son histoire. Mais en tout cas, je serai très modeste quant aux inférences quantitatives des modèles que je vous ai présentés.
Oui, enfin, j'ai deux questions. D'abord, la biologie s'est au départ inspirée, à l'époque de Darwin, plutôt de l'économie, de la sélection naturelle par la main invisible d'Adam Smith. Aujourd'hui, si on regarde, on a l'impression que l'économie, et d'ailleurs je crois qu'il y a un courant, devrait plutôt s'inspirer de la biologie et de l'évolution, des théories évolutionnistes, ce qui du coup amènerait à penser que ce n'est pas simplement le hasard qui est à l'œuvre. Est-ce que, c'est ma première question, est-ce que vous avez des contacts, est-ce que vous travaillez avec des économistes sur des questions de théorie évolutionniste en économie? Deuxième question, c'est, si j'ai bien compris, c'est qu'au fond, la vie, le vivant va vers une complexité de plus en plus grande en termes de volume, en termes de variété, en termes de niveau d'organisation. L'homme serait en quelque sorte le niveau de complexité le plus avancé aujourd'hui dans cet ordre du vivant. La coopération joue un rôle dans cette évolution. Sans coopération, pas de complexification, pas d'évolution de la vie. Ce qui n'empêche qu'il y a aussi compétition. Au fond, est-ce que ça reviendrait à dire qu'il y a un sens dans l'évolution ?
Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, il ne s'agit pas ici de faire un historique de l'économie théorique, mais comme je l'ai mentionné, la théorie des jeux vient de l'économie, et c'est l'une des rares théories dont on dispose en biologie qui ne soit pas empruntée à la physique. Donc, elle a, à mes yeux, pour cela une grande valeur, parce qu'elle ne relève pas d'un plaquage direct de modèle de la physique, mais plutôt d'une inspiration qui remonte effectivement à Darwin et à Malthus, et qui a, à mon avis, débouché sur un transfert très, très fertile, au point finalement qu'on est arrivé à une situation où la notion d'équilibre global qui a finalement été un des produits de la théorie des jeux en économie est complètement remise en cause, abandonnée par les économistes qui vont effectivement maintenant puiser vers les acquis de la théorie des jeux qui viennent de la biologie pour renouveler leur propre discipline. Donc en cela, je rejoint tout à fait votre remarque pour y répondre par l'affirmative que les économistes cherchent une inspiration théorique du côté de ce que les biologistes ont fait de leur théorie des jeux. La question du sens de l'histoire du vivant, effectivement, on a une coïncidence chronologique de l'accroissement de la complexité et du temps de l'évolution. Ce qui est remarquable cependant, c'est que la complexification n'est pas quelque chose que l'on peut suivre linéairement le long d'une lignée évolutive. On connaît des lignées évolutives de parasites, par exemple, qui régressent au cours de l'histoire du vivant, des parasites dont le génome raccourcit, par exemple. Ce qui est remarquable l'un des messages des théories basées sur la coopération, c'est que des événements comme ces transitions majeures peuvent apparaître de manière répétée, de manière indépendante et pas nécessairement coïncidente dans des lignées évolutives tout à fait distinctes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un sens global ou, disons, cohérent de l'accroissement en complexité et en diversité du vivant, mais au contraire d'un potentiel qui s'est réalisé de manière plus ou moins avancée dans des lignées évolutives différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Mais Régis Ferrière, un grand merci.
Merci à vous tous.